Bonjour à tous. L'inhumation du petit Émile, c'est demain. Elle a lieu à la Bouilladis, son village natal dans les Bouches-du-Rhône, après une messe donnée dans le Var à la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Les deux hommes interpellés mardi avec 16 kilos de cocaïne jugés aujourd'hui par le tribunal des Hautes-Alpes. Les douanes avaient surpris ces deux Albanais en possession de cette drogue dans une cachette de leur voiture. Pour la procureure du parquet de Gap, cela confirme que le département est une des voies de transit pour des trafics de stupéfiants internationaux. L'alliance FDSEA, jeunes agriculteurs, rafle les chambres d'agriculture des Alpes du Sud. Les deux syndicats arrivent en tête dans les deux départements, dans les collèges des exploitants agricoles. Éric Lyons devrait être reconduit président dans les Hautes-Alpes, tandis que Laurent Despiez va le devenir dans les Alpes de Haute-Provence. La ville de Digne-les-Bains poursuit son désendettement. Il atteint aujourd'hui 23 millions d'euros. L'objectif, c'est 18 millions d'euros, soit 1 000 euros par habitant pour Francis Kuhn, premier adjoint au maire en charge des finances. Cela passe par une maîtrise à venir de la masse salariale de la ville. Et puis Pierre Voltier s'est lancé un nouveau challenge. Le double champion olympique de snowboard cross lance un nouvel événement, le Pump Track Battle. C'est ce week-end à Serre-Barbin. Il avait disparu le 8 juillet 2023 au hameau du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. 8 mois plus tard, des ossements d'Émile Soleil avaient été retrouvés par une randonneuse. En juin dernier, l'acte de décès du petit garçon de 2 ans et demi était signé par le maire François Balic. Ce samedi, il sera inhumé en toute intimité à la Bouilladis, son village natal dans les Bouches-du-Rhône. Plus tôt dans la matinée, une messe sera donnée au sein de la basilique Sainte-Marie-Madeleine dans le Var. Aurore Valory.
C'est à 10h ce samedi que la messe des obsèques d'Émile sera célébrée au sein de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard par les parents du petit garçon Marie et Colomban Soleil. Elle abrite les reliques de Marie-Madeleine, ce qui fait d'elle le 3e tombeau de la chrétienté. La basilique est aussi le plus vaste édifice gothique de Provence. Elle peut donc accueillir un nombre important de personnes. Alors que la disparition et la mort d'Émile ont ému la France entière, les parents souhaitaient que les obsèques soient publiques et puissent réunir tous ceux qui souhaiteront être auprès d'eux, explique leur avocat Jérôme Triomphe. En ouvrant cette célébration le plus largement possible, Marie et Colomban Soleil souhaitent remercier tous ceux qui, anonymes ou pas, les ont entourés et aidés, précise encore leur avocat. La basilique sera ainsi ouverte dès 9h pour la famille et les proches du petit garçon. Elle sera accessible au public dès 9h30. Un registre de condoléances sera mis à disposition. Les fleurs reçues seront placées dans le cœur de la basilique. Puis le petit garçon sera inhumé au sein du village de la Bouilladis. Un caveau familial avait pourtant été demandé au sein du cimetière du Vernet en novembre dernier, mais seule une concession individuelle pour Émile avait été octroyée par la commune, la concession familiale ayant été refusée. Une décision incomprise par la famille, comme si on pouvait humainement et moralement séparer dans la mort des parents de leur enfant disparu, souligné dans un communiqué l'avocat Jérôme Triomphe.
Et Aurore, si le petit garçon est inhumé demain, où en est l'enquête ?
Le 30 mars 2024, des ossements avaient été découverts par une randonneuse. Les analyses d'identification génétique avaient permis de conclure qu'il s'agissait bien de ceux de l'enfant de 2 ans et demi. Il se trouvait sur un étroit chemin forestier, une zone qui avait été arpentée par les recherches lors de la disparition de l'enfant, mais qui pourrait être très végétalisé en été, précisé le 2 avril 2024, le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Ce lieu peut être rejoint à pied à partir du bas du village en 25 minutes à marche d'homme. Il ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est que dans la partie sous bois, il est très pentu. À proximité du lieu où le crâne avait été découvert, des vêtements que portait Émile le jour de sa disparition avaient été retrouvés. Un t-shirt, ses chaussures et une culotte. Aucun traumatisme antémortem n'a été observé, précisait encore le procureur. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques. Aucune piste n'était alors privilégiée par les enquêteurs pour expliquer la mort de l'enfant. Entre la chute, l'homicide involontaire ou le meurtre, on ne peut pas privilégier une hypothèse, soulignait le procureur.
Pendant une dizaine de jours, au début du mois d'avril 2024, les opérations de recherche méthodique et approfondie du corps d'Émile avaient mobilisé une centaine de gendarmes, les enquêteurs de la cellule nationale d'enquête, deux équipes cynophiles de recherche de restes humains, des anthropologues et un coordinateur criminel. Une section du 2e régiment étranger du génie spécialisé dans la fouille des sols avait également été mobilisée pendant deux jours. 45,3 hectares avaient ainsi été ratissés. Des éléments corporels et effets appartenant à Émile avaient été découverts à l'époque, Aurore.
Si de premiers examens ont été menés par l'IRCGN, des expertises complémentaires ont été conduites l'été dernier sur les ossements et les vêtements du garçon au sein d'un laboratoire privé d'hématologie médico-légale de Bordeaux. En novembre, on apprenait que des traces d'ADN partielles avaient été découvertes lors des analyses des ossements et des vêtements du petit Émile. Deux traces d'ADN étrangères à celles de la famille du petit garçon qui avaient été découvertes très dégradées et en petite quantité. Elle pourrait toutefois résulter de contamination alors que les ossements et les vêtements ont été manipulés à de nombreuses reprises, un risque qui ne peut être écarté. Et même si les ossements de l'enfant ont désormais été remis à la famille, l'enquête se poursuit. Chez nos confrères de RTL, Hubert Bonneau, le directeur général de la gendarmerie nationale, précisait que 20 enquêteurs sont en permanence mobilisés.
Merci Aurore, un dossier que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur alpe1.com. Les deux Albanais interpellés avec 16 kilos de cocaïne vont être jugés, c'est ce qu'indique le parquet de Gap qui précise que les deux individus vont être déférés ce matin en vue d'une comparution immédiate. Les deux hommes avaient été interpellés mardi matin au péage de la Saulce à la sortie de l'autoroute A51 à bord d'un véhicule dans une cache aménagée, plus de 16 kilos de cocaïne. Marion Lezacmer précise auprès d'Alpe1 que l'enquête confiée à l'office anti-stupéfiant après remise des douanes n'a pas mis en évidence de liens entre ces individus et des trafics locaux. Pour la magistrate du parquet haut-alpin, cela confirme que le département est une des voies de transit pour des trafics de stupéfiants internationaux. L'Alliance FDSEA Jeunes Agriculteurs remporte les élections des membres des chambres d'agriculture des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Sur le territoire haut-alpin, pour le collège des exploitants agricoles le plus important, Eric Lyons, déjà président de la chambre, est en passe de le rester. À l'issue du dépouillement hier soir, la tête de liste FDSEA Jeunes Agriculteurs 05 récolte 40,7% des voix devant la coordination rurale 34,2%. Ce dernier syndicat devient le deuxième local aux dépens de la Confédération paysanne, 21,55%. Le MODEF récolte enfin 3,5% des voix. Et puis, dans les Alpes de Haute-Provence, Laurent Despiez sera le prochain président de la Chambre d'agriculture. Le score est sans appel, 49,97% des voix pour l'Alliance FDSEA Jeunes Agriculteurs 04. C'est devant la Confédération paysanne et la Coordination rurale. Laurent Despiez succédera ainsi le 7 mars prochain lors de l'installation de la nouvelle chambre à Frédéric Esmiol. Ce dernier avait décidé d'être seulement présent sur la liste. Notez que la liste FDSEA JA 04 obtient 13 sièges. C'est 3 pour la Confédération paysanne et 2 pour la Coordination rurale. Le budget prévisionnel de Digne-les-Bains présenté hier au conseil municipal. La ville traîne une dette de 23 millions d'euros, une enveloppe qui, en plus d'une diminution des impôts l'an passé, a diminué de plus de 3 400 000 euros par rapport à 2024. L'objectif pour la ville aux 18 000 âmes, un endettement de 1 000 euros par habitant, soit 18 millions. Encore faut-il le faire avec des perspectives incertaines. La loi de finances 2025 vient à peine d'être adoptée par le Parlement. Des ajustements seront encore nécessaires, mais Francis Kuhn, conseiller municipal en charge des finances, a déjà un objectif pour 2025, la maîtrise de la masse salariale de la commune.
C'est un sujet central puisque cette année, nous devons faire face à une augmentation de la cotisation patronale pour la retraite de 3 points. Et il y aura 3 autres augmentations identiques, 2026, 2027, 2028. Tout ça pour rattraper le déficit de la Caisse nationale de retraite qui est à fin 2024 de 3 milliards et qui ne va faire qu'à s'accentuer dans les années qui viennent. Cette augmentation de 3 points, c'est un coût de près de 200 000 euros pour le budget communal. S'y ajoute une augmentation du taux des cotisations maladie, c'est l'URSSAF, qui est d'un point, soit près de 65 000 euros. Et face à ces augmentations, la commune travaille d'une part sur les effectifs et d'autre part sur tous les compléments de rémunération, en particulier, par exemple, des heures supplémentaires dont nous voulons abaisser le coût d'un tiers. Donc on voudrait arriver à économiser 100 000 euros. Ainsi, l'augmentation des charges de personnel restera limitée à 2,3%, à 15 095 000 en 2025 contre 14 756 000 en 2024.
En dehors de la dette, près de 5 millions d'euros de projets vont voir le jour cette année avec la forêt comestible, la voirie de l'allée des Fontainiers ou encore les travaux du musée Gassendi qui débuteront à l'automne. Pierre Voltier en a fini avec les neiges olympiques, mais il n'en a pas fini de se challenger lui et les autres. Le double champion olympique de snowboard se lance un nouvel événement, le Pump Track Battle, ce week-end à Serre-Barbin, en lieu et place de l'ancien circuit de glace de la Salle Les Alpes. Il a conçu lui-même la ligne de bosse avec des difficultés et pas des moindres, car l'objectif, ce n'est pas d'aller vite, mais d'aller jusqu'au bout.
Un gros événement, je ne sais pas, mais en tout cas un événement au pied levé. On a une grosse pump track, un concept merveilleux. Ça part à 6 mètres de large et ça finit à 50 cm de large. Et donc le but, c'est que les gens n'arrivent pas au bout et qu'ils sortent de la ligne avant et donc qu'ils soient éliminés de cette manière. Donc c'est un concept très ludique, il ne suffit pas d'aller vite, il ne suffit pas d'être rapide, il suffit d'aller loin. Les temps forts du samedi, en tout cas, qui est la plus grosse des journées, ce sera un début à 11h30. Ensuite, vers 12h30, on a un temps fort avec le solo run, qu'on appelle. Donc, on s'élance tout seul et on va le plus loin possible. Juste après, on a le trio run, qui est seulement pour ceux qui s'y sont allés le plus loin. On les envoie à 3 et on fait une sorte de battle comme ça. Et ensuite, on a le master creative, qu'on appelle. C'est simplement pour ceux qui veulent s'exprimer différemment, faire quelques figures, y aller la main dans la main, ou des choses comme ça, voilà. D'accord. On aura de tout, des freestylers, des poètes, il y aura de tout.
Samedi, place aux snowboarders et dimanche aux skieurs snowboarders. Un événement que Pierre Voltier organise avec son association Tree to Forest. La participation est gratuite et c'est ouvert à tous.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.